Europe 1.
14h, 15h.
Clap. Laurie Choleva.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Europe 1 dans Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Et en ce moment, y a-t-il meilleur endroit qu'une salle de cinéma où se réfugier ? Eh bien non, et Jean-Luc Godard disait d'ailleurs que le cinéma fabrique des souvenirs, alors fabriquons-nous ensemble des milliers de souvenirs. Au menu de Clap cette semaine, je vous parlerai d'un petit bijou, le film d'animation « Où est Anne Frank ?» du réalisateur Harry Folman, à qui l'on doit notamment l'excellent « Valse avec Bachir ». Un film qui parle de la Shoah, mais de façon différente. La comédienne Ludivine Sagnier, qui fait l'une des voix du film, sera avec nous pour en parler. Bien sûr, Didier Allouche sera là lui aussi pour son JT d'Hollywood. Et puis à 14h20, j'aurai le plaisir de recevoir le réalisateur d'une saga désormais culte. Si je vous dis « des frites, des frites, des frites, des frites, des frites », vous me dites « les tuches ». Et oui, avec Olivier Barou, nous parlerons de la sortie des Tuches 4, mais aussi bien sûr des films de sa vie. Et puis en dernière partie, ils sont maintenant aussi célèbres que les Tuches. Victor Bonnefoy et Franck Vallière viendront décrypter l'actualité des sorties salles de SOS Fantôme au biopic sur la vie des sœurs Williams. Voilà pour le programme de votre Clap qui commence maintenant.
14h, 15h, Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Chaque semaine, dans cette première partie, nous parlons de l'actualité du cinéma. Et l'actualité, c'est la sortie le 8 décembre de « Où est Anne Frank ?», film d'animation du réalisateur israélien Harry Folman, 13 ans après « Valse avec Bachir ».
Qu'attends-tu, Anne ? Ouvre tes cadeaux.
Oh, qu'il est beau !
Quand tu écris, à qui écris-tu ?
À moi-même, évidemment.
Je préfère imaginer mon journal comme une jeune fille, une meilleure amie. Je l'appellerai Kitty.
Cinéaste de grand talent, Harry Folman raconte en ce film l'histoire de Kitty, l'amie imaginaire à qui Anne Frank écrivait pendant la Seconde Guerre mondiale, qui se réveille mystérieusement dans notre monde moderne et décide de partir à la recherche d'Anne Frank. Elle découvre alors sidérée qu'Anne est à la fois partout et nulle part. Et dans cette Europe différente, désormais aux prises avec de nouveaux enjeux majeurs, Kitty trouvera le moyen de redonner au message d'Anne Frank sens, vie et espoir.
Cette jeune demoiselle s'appelle Kitty et elle cherche son amie disparue, Anne Frank.
Anne n'a pas écrit ce journal pour que vous fassiez d'elle un culte. Ce qui est important.
Allez, montez.
Fais tout ce que tu peux pour sauver ne serait-ce qu'une seule âme du malheur.
Une adaptation du journal d'Anne Frank original qui ne déçoit pas, déjà par l'esthétique qui est sublime et puis par l'idéologie de ce conte sur le pouvoir de l'imaginaire comme remède à l'horreur. L'idée de ce titre, sans point d'interrogation mais avec un point d'exclamation, c'est d'affirmer un constat. Où est Anne Frank aujourd'hui, dans un monde où des enfants continuent d'être victimes de la guerre, comme si rien n'avait changé depuis ? Et le point d'exclamation permet d'exprimer cela, déclarait Harry Folman il y a peu de temps. Pour en parler justement, la comédienne Ludivine Sagnier, qui est la voix de Kitty, est avec nous. Bonjour Ludivine.
Bonjour Laurie.
Merci beaucoup d'être là. Moi, ce que j'aimerais savoir déjà, c'est est-ce que vous connaissiez l'univers d'Harry Folman et qu'est-ce qui vous touche dans son univers ?
Bah moi j'ai vu La Valse avec Bachir et j'étais complètement bouleversée par d'une part par le sujet mais également par le traitement. C'est un style qui est complètement différent de celui de Où est Anne Frank, mais qui est tout aussi remarquable. J'étais très fière de pouvoir collaborer avec lui sur ce projet, bien entendu.
Et alors comment est-ce que vous avez réagi lorsque vous avez lu le scénario de Où est Anne Frank qui est différent du journal d'Anne Frank, qui est en même temps brillant.
Alors, j'ai pas lu le scénario, moi. On m'a envoyé le lien direct du film que j'ai vu en version originale. D'accord. Et en fait, j'ai été touchée par le traitement et par l'adaptation qu'il en a faite. On aurait eu une transcription linéaire du journal, ça aurait pas été aussi bien. Là, ce qui est intéressant, c'est que d'une part, il a sublimé son imaginaire en donnant cette place à Kitty, qui est formidable. Et d'autre part, il a su trouver une résonance juste avec notre époque, avec l'injustice qui est faite aux réfugiés et tout d'un coup le rapport de l'opinion publique à Anne Frank qui est peut-être un peu passif, c'est-à-dire qu'on a tendance à mettre en valeur la mémoire de cette jeune fille en oubliant la vraie raison pour laquelle elle est toujours autant d'actualité.
C'est ça aussi qui est très beau avec ce film. C'est vraiment Harry Folman, de par ses origines, il fait aussi un travail de mémoire et il arrive à faire ce parallèle très intelligent avec l'époque qu'on vit aujourd'hui et puis toutes ces enfances sacrifiées aussi.
Oui, absolument. On voit le personnage de Hawa, la petite réfugiée qu'on imagine malienne. Effectivement, tous ces enfants qui sont pris comme ça dans des mouvements d'exil forcé et qui ne choisissent absolument pas où ils vont atterrir et qui font ce qu'ils peuvent avec la société qui les accueille ou pas. J'ai trouvé que c'était très habilement traité.
Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans l'exercice du doublage? Parce que c'est pas votre premier doublage. Vous en avez fait, je crois que c'est votre sixième.
Oh là, c'est bien plus que ça, parce que moi j'ai commencé les doublages à 13 ans, donc j'en ai fait énormément, mais quand il y a des beaux projets comme ça à défendre, je suis toujours partante, parce que c'est un exercice qui est alternatif au métier d'acteur, parce qu'effectivement on travaille pas sur le corps, mais la voix révèle énormément de choses. C'est un travail qui est très technique, mais qui me plaît beaucoup. Surtout, en fait, je trouve que la création en animation est toujours aussi virulente, engagée, etc. Et j'ai envie de faire partie aussi de ce mouvement-là.
Et là, l'esthétique dans Way and Frank est sublime, vraiment.
Oui, c'est magnifique. La musique est sublime également. C'est très intéressant parce qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il change de style par rapport à ses sujets. Là, ça s'adresse à un plus grand nombre. Moi, je suis allée voir le film avec mes enfants et ils ont été bouleversés.
Ça, c'est beau. De pouvoir le voir en famille. Merci beaucoup, Ludivine. Où est Anne Frank sera en salle le 8 décembre prochain. Et puis maintenant, on part retrouver Didier Alouche, notre correspondant à Los Angeles, qui nous livre chaque semaine son JT d'Hollywood.
Salut Laurie, salut à tous. Tiens, et si on parlait de Johnny ? Mercredi dernier, Johnny était de retour à Los Angeles. Son nom s'étalait sur les marquises d'un des plus beaux cinémas de la ville, le Regal Theater, en plein centre de downtown. C'est ici qu'avait lieu l'avant-première mondiale du documentaire « Mon nom est Johnny », une projection de prestige dans une salle ICE en totale immersion. Un documentaire qui suit la seule tournée américaine de notre Johnny. Un documentaire que vous pourrez voir dimanche soir en exclusivité sur Canal+. Ce dimanche marque les 4 ans de la disparition de Johnny. Pour l'occasion, Laetitia Hallyday et ses deux filles, Jade et Joy, recevaient les amis de Johnny. Des amis français qui avaient fait le voyage et les amis fidèles de Johnny en Amérique. Ses musiciens bien sûr, mais aussi Mickey Rourke, un bon copain des Hallyday depuis que la famille s'est installée à Los Angeles il y a maintenant 14 ans. Laetitia est aussi coproductrice du documentaire, un doc qui l'a replongée dans un des moments les plus heureux de la vie de Johnny.
Ça a commencé en 2014, cette tournée. Johnny en avait rêvé et il est allé au bout de son rêve. Il a produit cette tournée. Il avait voulu, pendant cette tournée, qu'un réalisateur le suive, un metteur en scène qui est son ami, Pascal Duchesne. Et Pascal nous a suivis sur les routes pendant toute la durée de la tournée. Johnny lui a ouvert des portes qu'il n'avait jamais ouvertes. Dis-moi que la vie est encore plus belle quand on a plus 20 ans. Est-ce qu'on peut encore toucher le ciel quand on a plus 20 ans? Il y a un supplément d'âme dans ce documentaire qui est extrêmement émouvant. Et moi, je peux pas le regarder sans pleurer. Mes enfants, Jade et Joy qui découvraient le film ce soir parce que j'avais pas voulu leur montrer avant, ont pleuré tout le long du film. Et donc j'étais émue de voir nos amis américains qui étaient là, ces compagnons de route ici, de vie, qui venaient découvrir le film et qui ont pleuré et qui ont été extrêmement bouleversés par la dimension aussi de sa présence ce soir dans la salle. Il continuera de nous guider, Johnny.
Johnny à tout jamais avec nous. Et Mon nom est Johnny, le documentaire que vous pourrez voir dimanche soir sur Canal+, a même permis l'espace d'un soir, le retour de Johnny Hallyday en Amérique.
Merci beaucoup Didier, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine.
Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Merci d'être au rendez-vous de Clap. C'est parti pour notre grand entretien de la semaine. Et j'ai la chance de recevoir un acteur, réalisateur, grand spécialiste de l'humour. Et il est d'ailleurs le papa de l'une des familles les plus célèbres du cinéma français, Les Tuches, vous avez compris. C'est Olivier Barou qui est dans ce studio. Bonjour Olivier.
Bonjour Laurie, merci de m'accueillir.
Avec grand plaisir. Alors on parle aujourd'hui des Tuches 4 et cette fois c'est sous la forme d'un conte de Noël qu'on retrouve la famille Tuche.
Voilà, c'est conte de Noël. On avait longtemps, on y a pensé pendant pas mal de temps et on s'est dit voilà, on va changer un peu les dates de sortie, on va sortir en décembre et en sortant en décembre on s'est dit il faut qu'on fasse un conte de Noël. Un conte de Noël à la sauce Tuche évidemment.
Évidemment, donc ça donne quoi ?
Ça donne évidemment le Noël des Tuches qui essaye de faire se rabibocher Jeff et puis son beau-frère qui s'appelle Jean-Yves Marteau, interprété par Michel Blanc. Ils sont fâchés depuis 10 ans et on va profiter de Noël. En tout cas, Cathy va essayer de profiter de Noël pour que, et voilà, ils s'entendent mieux et qu'ils oublient leur vieille histoire de voiture. Voilà, ils sont fâchés pour une histoire de voiture débile. Mais malheureusement, cette petite rencontre va mal se passer. Ça va devenir une guerre entre deux visions de Noël. Une qui est plus traditionnelle, celle de Jeff, et puis l'autre plus actuelle, celle des grandes plateformes de distribution. Donc c'est Jeff qui va s'attaquer à Magazone.
On va aller voir l'usine du Père Noël.
Il n'y a plus l'usine des jouets ?
Je vends.
Vous vendez à qui ?
Magazone.
Marteau.
Les gros gagnent, les petits meurent, vous êtes dans la deuxième catégorie, désolé.
J'ai une proposition à vous faire.
Voilà mon plan, racheter Limarol
et fabriquer des jouets en bois.
Qu'est-ce que tu fous là, Marteau ?
Tu veux des clous ?
Ils fabriquent un jouet que nous n'avons pas.
Vous pourriez appeler l'inspection du travail ?
Là, vous travaillez, monsieur Tuche.
Non, je travaille pas, je suis pas trop. Vous avez déjà vu un patron qui travaille, vous ?
C'est un combat qui n'est pas facile à mener. Vous parliez donc de ce nouveau venu dans la famille Tuche, incarné par Michel Blanc, qui est donc ce con de Jean-Yves. Je cite Jean-Paul Roux.
Tout à fait, ce con.
C'est vrai qu'il est con.
Ah, bah oui, il est con et en même temps, moi, je le trouve assez touchant parce que voilà, il essaye de grimper l'échelle sociale. Il a la vraie valeur travail. Il a commencé tout en bas de l'échelle. Il monte, il est maintenant directeur d'un grand centre de distribution et il pense être arrivé, mais bon. Bon, après, vous verrez le film, vous comprendrez que c'est peut-être pas la bonne direction qu'il aurait dû prendre, mais c'est quelqu'un de con. Pour Jeff, moi, je le trouve assez touchant quand même.
Ce qu'il faut rappeler, que pour Jeff, le travail, c'est quand même inconcevable.
Voilà, c'est lui d'avancer. Pour Jeff, c'est le travailler, c'est être un chômeur, un bon chômeur. Et le chômage lui apportera beaucoup s'il le fait bien. Ça, c'est la pensée de Jeff, il a jamais aimé bosser.
Oh, alors qu'est-ce qu'il vient m'emmerder, là ? Ils sont magnifiques, ces gars-là, magnifiques. Quelle belle guirlande, j'ai bien fait là.
Bah voilà, maintenant il me reste plus qu'à brancher sous secteur.
Et comment tu vas faire en roulant ?
Tu crois que j'y ai pas pensé ?
Et donc ?
Et donc je vais mettre une rallonge ?
Non mais attends, il va te falloir beaucoup de longueur, sinon elle va se débrancher.
Bah oui, bien sûr, et quand je prendrai un rond-point, ça va faire des nœuds ? Mais enfin, j'en ai vu de rallonge, mais non, enfin vraiment.
Très drôle, très fin, hein, très fin.
Quand vous êtes entre deux Tuches, est-ce qu'elle vous manque cette famille ?
Oh, c'est beaucoup de travail, donc je vais pas faire. Je vais dire la vérité. Je
suis
content.
Démago.
Non, je vais pas faire le démago. Je suis content quand les Tuches sont terminées, que le film est fait, que le film est sorti, etc. De passer à autre chose et de découvrir d'autres univers. Je suis très content de les retrouver. Mais pendant le moment où je fais d'autres films, non, ils me manquent pas du tout. Non,
heureusement. D'un autre côté, ils sont envahissants.
Ils sont très envahissants. Ils sont nombreux.
C'est un gros package.
C'est un gros. Voilà, c'est ça. Et voilà, filmer des scènes de table avec les Tuches. Je préfère vous dire que ça équivaut à 4 blockbusters. Hein. Donc il faut savoir se réserver des petits moments de calme.
Et puis dans celui-là, il y a un nouveau challenge puisque Isabelle Nanty incarne sa sœur.
Oui, c'est ça. Isabelle a accepté de jouer Cathy et Maggie. Donc ça a été un tournage assez compliqué pour elle puisqu'il y a beaucoup de choses techniques qui se sont déroulées. Mais elle est géniale dans les drôles. Elle a su créer une Maggie qui est l'antithèse de Cathy. Et je pense que les spectateurs vont vraiment aimer aussi Maggie.
Et puis c'est tellement touchant de voir ces deux sœurs, effectivement, que tout oppose, mais qui s'aiment profondément.
Elles viennent du même endroit, mais elles ont pris deux directions différentes. Il y en a une qui est restée Cathy et l'autre qui a suivi Jean-Yves Marteau et qui s'est embourgeoisée, qui a essayé de faire disparaître, effacer ce qu'elle était à la base. Et finalement, elle le regrette un peu.
Et puis elle est Tuche au fond d'elle.
Bien sûr, c'est une Tuche. Ouais, ouais.
Un autre nouveau venu dans la famille Tuche, c'est François Berléand.
Oui, François, que je connaissais depuis longtemps, et puis avec qui j'avais déjà travaillé sur Entre Amis, une histoire de bateau et de croisière qui se passe mal avec Daniel Auteuil. Et donc François, c'est un copain, Et quand je lui ai proposé ce rôle-là en particulier, je ne peux pas dire de quel rôle il s'agit.
Mais c'est un très joli rôle.
Ce rôle-là, il m'a dit, je vais le faire, il faut que je le fasse.
Seul problème, c'est que ce n'est pas sûr qu'il puisse revenir dans un autre Tuche.
Non, mais bon. On ne sait jamais, avec le maquillage, tout ça, on peut très bien le réinviter.
Tout est possible.
Mais là, pour l'instant, il va attendre un petit peu avant de revenir. Oui.
C'est quoi pour vous le secret de la réussite des Tuches? La bienveillance? Ce qu'on a besoin à Noël, justement.
Ouais, alors je crois que même en dehors de Noël, je crois que les gens aiment les Tuches parce que, en tout cas, les réflexions qu'on entend souvent, c'est ils sont vrais. Non, je sais pas trop ce que ça veut dire. Ils sont vrais, c'est-à-dire qu'on
sent. Ils sont sincères.
Ils sont sincères. Je crois qu'il n'y a pas de cynisme aussi. Et puis je pense que les gens font un peu d'identification en se disant je connais, moi, dans ma famille, des gens comme ça, des Tuches, des gens qui n'ont pas de filtre, qui sont directs, sont un peu des enfants, les Tuches. Donc je crois que les gens apprécient ce côté enfantin.
Jean-Paul Rouve participe aussi maintenant à l'écriture.
Bien sûr.
Il paraît que c'est très drôle, les séances d'écriture avec
lui. Oui, parce que Jean-Paul a pris l'habitude d'interpréter, en tout cas quand on écrit certaines répliques, de faire vivre Jeff Tuche. Donc il parle... en Jeff Tuche, et nous, ça nous aide aussi à saisir si la vanne est bonne, si la situation est bonne. Donc, il se dédouble comme ça, c'est plus agréable.
Vous nous inviterez, j'espère. On aimerait bien voir ça.
Je ne suis pas sûr, parce que c'est vraiment de la cuisine. Des fois, ça rigole, des fois, ça s'engueule, des fois, ça déchire des pages. C'est tout un travail de longue haleine qui dure un an et demi, avec des pauses, évidemment, mais... C'est pas beau à voir.
C'est vrai.
Oh là là.
Non, mais et qui l'emporte en cas d'engueulade alors?
Mais c'est les Tuches qui l'emportent. C'est les Tuches finalement, au final, c'est eux qui gagnent. Hein, donc, mais on n'a plus de problème d'ego sur ce film-là. On a réglé ça depuis longtemps.
C'était évident pour vous qu'il allait avoir un Tuche 4
Après le 3, oui, bien sûr. Nous, on avait envie, on avait cette idée-là. Et on a envie, on a toujours envie. D'ailleurs, on a déjà annoncé le Tuche 5 aussi parce qu'on a trouvé une bonne idée. Enfin, on pense avoir trouvé une bonne idée. On va le savoir très vite, là, dans le mois qui vient. On va essayer d'en faire un synopsis. Mais à partir du moment où le 4, on a mis du temps à trouver l'idée. Le 5, c'est venu tout de suite. On a dit, tiens, et ça? Ah ouais, génial, on y va, on fonce. Donc c'est cool.
Est-ce que vous allez commercialiser Bobo le bâtard, qui est le jouet phare de ce nouvel épisode
ouais,
des Tuches?
J'aurais bien
tout
aimé.
Tout le monde vous le demande.
Peut-être qu'on pourrait le faire, mais le commercialiser pour une bonne cause. Ça, on va pas faire. On n'est pas Star Wars, donc non, on va. Pourquoi pas faire des petits porte-clés avec Bobo le bâtard qui dit Noël de bâtard pour une bonne œuvre, pour les restaurants du cœur, pour autre chose. Ça serait super de faire ça. Maintenant, on n'en est pas là. Mais en tout cas, ça sera pas commercialisé pour faire de l'argent. Je peux vous le garantir.
Quel est votre membre préféré de la famille Tuche?
Si je dis ça, je vais me faire trucider.
Donc, je
vais vous dire mon préféré j'ai la bonne réponse, vous inquiétez pas. Mon préféré chez les Tuches, c'est Toby, c'est le chien de Mamie Suze.
Ah, c'est trop facile.
Parce que il est empaillé et il est hyper facile à diriger et j'ai aucun problème avec lui.
C'est vrai.
C'est vrai, c'est un des Tuches.
Mamie Suze n'est pas si difficile à diriger non plus. On comprend rien ce qu'elle dit de toute façon.
Voilà, mais mon préféré, c'est Toby. Ce sera ma réponse.
Ok, ça va, je prends. Elle est comment l'ambiance sur le tournage? Parce que, effectivement, je pense que ça rigole, mais vous le disiez, il y a beaucoup, beaucoup de travail et beaucoup d'attentes aussi.
C'est studieux. C'est souvent une légende de dire. Que sur les comédies, on rigole. Oui, on rigole le matin au café, au maquillage, on rigole entre nous. Et puis après, le soir, à la cantine le midi, le soir en partant, sur le plateau, on prend du plaisir, mais c'est très studieux. On n'a pas le temps vraiment de rire. Sauf moi, j'ai le droit de rire parce que je suis derrière l'écran et je vois les scènes. Et il faut que ça me fasse rire. Si ça ne fait pas rire, il y a un problème. Donc moi, je rigole plus que l'équipe. Les comédiens, eux, travaillent.
Donc on a fait l'Elysée, on a fait les States, on a fait le conte de Noël. Vous m'aviez dit, donc le prochain, ce sera...
Ce sera, je ne vous le dirai pas. non, je ne peux pas le dire, parce que ça serait fou de le dire, parce qu'on a une idée, il faut qu'on l'écrive. Mais c'est une idée qui est dingue, et j'espère qu'on va aller au bout, voilà.
J'étais en train de me dire qu'est-ce que vous avez fait l'Elysée quand même.
Vous trouverez pas. Non, c'est impossible de trouver parce que c'est vraiment dans notre tête de scénariste malade. Et maintenant, il faut qu'on l'écrive. Voilà.
Bon, alors à votre avis, qu'est-ce que la famille Tuche souhaiterait à nos auditeurs pour Noël?
Oh, alors je pense que la première chose, ça serait de la part des Tuches, ça serait vraiment de
manger des frites.
Là, vraiment, alors de retrouver le plaisir de manger des frites et surtout sans le Covid, sans les masques, sans le pass sanitaire, sans tout ça, sortir de cette histoire le plus rapidement possible. Je sais qu'on en a encore pour un bout de temps, donc je pense que le premier truc qui me vient en tête, c'est ça. Je pense que c'est de retrouver une certaine liberté, une joie de vivre, l'envie de rire, de se retrouver entre amis, entre copains, en famille, de délirer comme avant, et puis que tout ça soit loin derrière nous.
Comme la scène du karaoké. Ouais, voilà. Génial voilà, dans les Tuches 4.
L'anniversaire de Cathy. Ouais.
Oui. Bah, ça pourrait d'ailleurs un bon Tuche 5 aussi, hein, les Tuches en pleine crise sanitaire.
C'est pas ça.
Dommage.
14h, 15h, clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
J'adore cette musique.
Ça reste dans la tête.
Oui.
Hein.
C'est quoi? C'est un jingle
Oui, jingle fait maison.
Waouh.
Spécialement pour nous.
On a envie que ça continue et que le beat 30 et que tin.
C'est vrai.
C'est chouette. C'est
un mélange de Rocky, il y a plusieurs inspirations. Mais c'est Clap, voilà, qui redémarre sur Europe 1. Merci beaucoup. Olivier Barou est à mes côtés. On va parler des Tuches 4 et puis surtout des films de votre vie, Olivier. Déjà, le cinéma, il est rentré tôt dans votre vie?
Il est rentré très tôt, non pas au cinéma, mais à la télévision. Mes parents n'avaient pas forcément les moyens de m'emmener, de me payer le cinéma tout le temps. Donc j'ai vu mes premiers films à la télévision. J'en ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc le cinéma est rentré comme ça, inconsciemment, évidemment, parce que lorsque j'avais 10 ans, je ne me disais pas, tiens, je vais devenir réalisateur. Pas du tout.
Alors, votre première grande émotion ensuite au cinéma, quand vous avez découvert les salles de cinéma?
Ma première grande émotion, c'est Apocalypse Now. C'est ça,
Coppola.
Oui, j'avais jamais vu un film comme ça, quoi. Ça m'a choqué, ça m'a marqué. La grandeur du cinéma, la mise en scène, la folie de ce réalisateur et de cette histoire complètement folle, ça m'a scotché, quoi. Donc, je me dis, ça peut être aussi ça, le cinéma.
Martin Sheen qui part chercher Marlon Brando.
Ouais, voilà, le colonel devenu fou, réfugié. Puis après, j'ai lu tout ce qui concerne Apocalypse Now, le tournage, le journal de bord de sa femme, tout. C'était une folie, quoi, une folie, ce truc.
Palme d'or à Cannes.
Ouais.
Magnifique film. Votre meilleur souvenir de cinéma?
Le Parrain, oui, je suis désolé, mais Coppola, je suis très fan. Le Parrain, oui, parce que...
Je vous rassure, vous n'êtes pas le seul.
Oui, ben voilà, c'est tout à fait le genre de film qu'on peut voir 10 fois, 20 fois, 100 fois, et on trouvera toujours un plaisir à le regarder, à travers l'histoire, à travers la mise en scène, à travers le détail de ce qu'a insufflé le Coppola dans ce film, quoi. C'est fou, quoi. Moi, j'adore cette histoire de ma fière, je suis ultra fan et je peux le revoir encore et encore.
Non, vous venez chez moi le jour où ma fille Connie se marie et vous offrez de me payer pour un meurtre.
Et ce que je demande, c'est la justice.
Ce ne serait pas la justice, votre fille est toujours vivante.
Je vais les voir souffrir, autant qu'elle souffre. Combien faut-il payer?
Voilà celle. Qu'est-ce que je vous ai donc fait pour que vous me parliez avec aussi peu de respect? Vous seriez venu à moi comme un ami. Alors les voyous qui ont touché à votre fille seraient déjà en train de souffrir. Et si par hasard un homme comme vous avait se plaindre d'un ennemi, alors son ennemi deviendrait le mien. Et il aurait très peur de vous.
Oh là 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 là.
Magnifique. Voilà.
Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Les dialogues sont magnifiques, les situations sont magnifiques. Et quand on repense à Marlon Brando qui s'était mis deux épluchures d'orange dans la bouche pour faire le casting et que les producteurs ne voulaient pas de lui, et puis finalement Coppola a tenu, et c'est devenu... un film
cultissime. Et il y a un Parrain 3 remonté qui sort.
Ah, je ne savais pas, j'étais pas au courant.
Oui, je vous apprends des choses quand même. Avec la musique aussi de Nino Rota qui est absolument fabuleuse. Votre séance de cinéma la plus dingue?
Alors la plus dingue dans le sens où j'avais jamais vécu ça. En fait, c'est une fois, je suis allé au cinéma aux États-Unis à New York avec mon fils. Et j'étais pas du tout habitué en fait à savoir. Je savais pas que les Américains mangeaient dans les salles du pop-corn, buvaient, parlaient. Ça m'a rendu dingue. Mais ça m'a rendu dingue.
Mais
dingue.
Le pop-corn au cinéma, il y a tout un débat. Hein,
mais
quand même.
Dingue, mais fou. Mais alors, pop-corn, bon, il y en a aussi en France. Mais là,
mais c'est insupportable.
Ça parlait, ça téléphonait, ça se levait. Et je dis, mais c'est quoi ça? Mais on est où, quoi? Donc ça m'a. C'est, pour moi, c'était la plus dingue et la plus énervante des séances. Ouais.
Vous vous souvenez quel film c'était?
C'était Le Livre de la Jungle, nouvelle version.
En plus. Ouais. C'est peut-être pour ça aussi.
Je sais pas, ça m'a vénère.
Ils l'ont pas pris au sérieux. Alors
ça m'a vénère.
Je comprends. Le film qui vous fait le plus rire?
Le dernier en date, vraiment qui m'a fait marrer, c'est un film américain qui s'appelle Meilleurs Amis, de Judd Apatow. Ça, j'ai vraiment ri à gorge déployée. Quoi. Ça va vraiment... Il est allé tellement loin dans ce film, les actrices sont tellement géniales. J'ai ri tout simplement. On attend d'une comédie de rire, ben là j'ai vraiment beaucoup ri.
Tout le cinéma de Judd Apatow, c'est très drôle. 40 ans toujours puceau, c'est à mourir de rire. En Clock Mode d'emploi, moi j'ai beaucoup aimé.
Un génie.
C'est la vraie comédie, c'est voilà, vrai ce que vous disiez. Comédie américaine.
Américaine et avec un sens du dialogue qui est un peu différent de ce qu'on peut voir dans d'autres comédies. Il y a quelque chose de en plus, une folie en plus chez Apatow qu'on n'a pas forcément ailleurs. Et de très bons dialogues et toujours servi par d'excellents comédiens.
Le film que vous revoyez sans cesse?
Interstellar.
Pour mieux le comprendre?
Non. Non, j'ai tout compris, je suis fasciné.
C'est un film de Christopher Nolan, donc
Christopher
c'est
Nolan,
l'éternel blague. C'est toujours un peu compliqué.
Oui, voilà, il y a eu le débat aussi sur
Inception.
Inception, voilà, la fin, etc. Et même la fin d'Interstellar, il y a eu un grand débat, mais j'ai compris, enfin, j'ai ma version sur la fin. Mais j'adore ce film parce que c'est une leçon, quoi, une leçon de science. Et vulgariser à ce point-là et rendre accessible pour les spectateurs qui ne connaissent pas forcément grand-chose en astrophysique, rendre accessible toutes ces données, moi j'ai trouvé ça formidable et c'est une aventure et une projection dans l'avenir et moi je peux le revoir 1000 fois.
Je crois que c'est le film que vous avez le plus vu, hein, parce que vous aviez répondu sans
questionnaire. Ah puis je le regarde par petits bouts. Je me dis tiens, je vais me refaire la scène de l'espace-temps quand il est parti 50 minutes et qu'il revient. Il s'est déroulé 22 ans. Mais c'est dingue.
C'est dingue. Avec Matthew McConaughey.
Ouais.
Salut pas.
Orphée.
T'es un sale enfoiré. Si j'ai jamais enregistré un de ces trucs quand tu répondais encore, c'est que je t'en voulais d'être parti. Mais aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et c'est pas n'importe lequel, parce que tu m'as dit un jour qu'on aurait peut-être le même âge le jour où tu reviendrais. Et aujourd'hui, j'ai l'âge que tu avais quand t'es parti. Alors le moment serait bien choisi pour que tu reviennes.
Oui, ça calme.
Ouais, alors...
Ça calme. Et tout ça est vrai, hein. C'est-à-dire que c'est prouvé scientifiquement, c'est pas de l'invention, donc c'est complètement fou. Moi, ça me retourne à chaque fois.
Le sacrifice, en fait.
Ouais.
Sacrifier sa vie personnelle pour la science.
Ouais.
Bah maintenant, en transition, tout trouver votre comédie romantique préférée.
C'est Sur la route de Madison. Voilà, c'est celle qui me retourne complètement, qui m'a retourné quand je l'ai vue. Je le revois pas souvent, mais ça m'arrive de me le faire une fois tous les deux ans, trois ans. Je trouve cette histoire formidable, les acteurs évidemment.
Clint Eastwood, ouais. Meryl Streep.
Voilà. Et puis le démarrage du film, la fin du film, cette histoire, c'est inattendu. Cette parenthèse pour cette femme qui rencontre cet homme et qui se dit peut-être qu'elle a. Elle a raté le bon. Enfin non, mais c'est...
Bah, ce sont des films qu'on faisait, qu'on fait moins aujourd'hui, les vraies grandes histoires, grandes épopées, et c'est vrai que ça transporte, c'est culte, et c'est pareil, ça fait partie des films qu'on nous cite souvent, parce que oui, c'est le patrimoine.
C'est le patrimoine, et ce sont des films simples. Il n'y a pas... c'est très élaboré, évidemment, mais c'est simplement filmé, il n'y a pas d'exagération, on cherche pas, on raconte juste une histoire avec de bons acteurs, et vous êtes emportés.
C'est ce que j'allais dire, de grandes prestations.
J'étais en train de vous cueillir des fleurs. Les hommes font toujours ça, non? Je ne suis pas complètement démodé. Enfin, de cueillir des fleurs pour une femme en signe d'appréciation.
Non, pas du tout. Sauf que celles-là sont vénéneuses. Je plaisantais. Pardon. C'était juste une plaisanterie. Je suis désolée.
En version française. Et la version originale.
Oui, bien sûr, mais c'est différent. Après, il y a des gens qui apprécient aussi les versions françaises.
Il y a les deux écoles.
Il y a deux écoles.
Le film dans lequel vous aimeriez vivre
Pamela Rose, qu'on a écrit avec Cad. Moi, j'aimerais vivre dans cette vie absurde, complètement débile. Ça, j'adorerais. Je m'y sentirais très bien.
Il y a un projet d'ailleurs autour de Pamela
Rose.
Oui,
on est en train de travailler. On peut en parler, bien sûr. On est en train de travailler sur la série Pamela Rose, Bully the Ripper, qui reviennent pour enquêter sur une nouvelle affaire, qui sera une série de 9 fois 30 minutes pour Canal+. On est en pleine écriture.
FBI, on peut vous poser quelques questions?
C'est la femme de ménage, c'est elle qui a découvert le corps et justement...
Merci, shérif. Alors, à quelle heure avez-vous découvert le corps?
No hablo americano. Ah,
laissez-moi faire, j'ai pris espagnol en quatrième.
Hola. Et tu commences la cama et después el conducir el cortel, el camión a la cantina?
¿Qué?
Merci, Ripper. Bueno, mi amiga, yo quiero dos cervezas et un bocadillo de jamón.
¿Qué?
No sé rien.
Effectivement.
Gracias.
Avec Jean-Paul Rouve dans l'extrait.
Oui, Jean-Paul, oui. Qui joue le shérif.
Vous en êtes à combien d'années d'amitié avec Cad?
Oh, bah, ça date de 1991, donc faites le calcul. Hein. Donc c'est 30 ans, pas loin. Ouais.
Parce que je me souviens d'une interview de vous, pareil, après les Césars, après avoir reçu votre prix du public, où vous vous expliquez que votre plus grande émotion, finalement, de venir recevoir ce prix, c'était ce partage, c'est un peu cette célébration aussi de votre amitié avec Cad, d'être sur scène avec lui.
Ouais, moi j'étais un peu réticent au début, bon pour mille et une raisons, j'ai pas besoin de m'expliquer, mais j'étais un peu réticent. Cad m'a dit non, tu ne peux pas, c'est moi qui présente, tu ne peux pas ne pas être là, donc ramène-toi. Donc voilà, donc évidemment j'y suis allé, j'ai pris du plaisir d'être sur scène avec Cad. C'était trop long, les gens le faisaient signe, c'est trop long. Mais voilà, c'est une amitié, on a vécu tellement de choses ensemble, on a fait tellement de trucs, et on a eu après une séparation naturelle, parce que Cad est parti comme acteur, moi comme réalisateur, on se retrouve maintenant, Moi, je trouve que c'est une belle amitié bien gérée. Voilà.
Mais complètement bien gérée. Mmh. C'est ça qui est beau. C'est que vous avez réussi tous les deux, en plus, tous les deux à faire des succès en solo, ce qui n'est pas toujours le cas, mais en même temps, en restant très amis en préparant la suite de Pamela Rose.
On a toujours envie de travailler ensemble, d'avoir des projets. Le prochain film que je vais faire, c'est avec Cad, avant Pamela Rose. Donc voilà, on a des projets. Et puis si on est très cash entre nous, hein. Oui, non, non, ça, j'aime pas, c'est pas pour moi, propose à quelqu'un d'autre. C'est très clair, c'est sain, c'est. Puis voilà, et puis on est vraiment potes quand on se marre.
Mais vous pleurez aussi beaucoup, il paraît, ensemble. Oui. Vous êtes émotifs tous les deux.
Tous les deux, on est assez émotifs. Ouais. Il ne faut pas nous pousser trop. Dès que ça parle un peu de la famille et tout ça, on est très émotifs.
Il y a la même corde sensible. Le film que vous conseillez à un enfant ?
Big, avec Tom Hanks.
C'est votre histoire ?
Non, mais je trouve que...
C'est un enfant dans un corps d'adulte.
C'est vrai, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ouais, en tout cas, c'est le cerveau d'un enfant dans un corps d'adulte pour moi. Hein. Mais en tout cas, Big, ouais, je trouve que c'est un conte qui est magnifique et original. Et ce film, c'est pareil, je peux le revoir. Et surtout le conseiller aux enfants, ouais.
La bande originale de film qui vous a le plus marqué ?
Je ne sais plus
vie.
Ce que j'ai répondu.
Les Doors.
Ah oui, oh là
j'adore.
Là, oui.
Ouais, alors, déjà... Je suis contente que vous marquiez ça. Bah oui, me permettre de passer une petite chanson.
Bah oui, étant fan des Doors à l'origine, quand le film est sorti, j'ai adoré le film. La performance de Val Kilmer est exceptionnelle.
Elle est dingue.
Et donc, voilà, je peux réécouter les Doors en pensant au film. En voyant le film, je réécoute les Doors. Donc pour moi, c'est parfait.
Et alors, l'autre bande originale que vous écoutez là, plus pour faire du sport ou vous motiver, c'est les Blues Brothers.
Ouais, c'est un film aussi que j'ai vu quand j'étais jeune. Et j'étais très très fan des Blues Brothers avec les copains de l'époque quand j'avais 16-17 ans. On s'habillait un peu comme eux et tout, on mettait des vestes. C'était la mode à l'époque et je suis très fan de toute la bande originale qu'il faut réécouter parce que c'est vraiment bien.
Vous écoutez beaucoup de musique ?
Oui, beaucoup. Pour les films et puis même pour moi, j'écoute beaucoup de musique, oui.
Voilà la bande originale des Blues Brothers.
Someone to love. Sweet little mess.
C'est ça le problème des bonnes bandes originales, c'est qu'on n'a pas envie que ça s'arrête en fait.
Voilà.
Si je vous demande le titre du film de votre vie.
Si je devais faire un film, c'est Écoute-toi. Je pense que ça serait le titre du film de ma vie. Je me suis toujours écouté et pour l'instant ça va. J'avance bien et je trace ma route. Voilà. Bon, c'est très prétentieux de dire ça, hein. Mais tant pis. Écoute-toi.
Non, mais
ça.
Vous avez raison, ouais. Et vous êtes construit aussi, vous avez pris des risques et vous avez fait plein de choses.
Ouais,
et
ouais.
Faut se faire confiance.
Toujours écouter et écouter les proches autour de moi, évidemment, qui m'ont aussi guidé. Mais voilà, ça serait un bon slogan pour moi.
S'écouter soi-même, je suis bien d'accord. Merci beaucoup Olivier Barou. Je rappelle donc la sortie des Tuches 4 le 8 décembre.
Et il y a aussi des avant-premières partout en France le dimanche 5, juste donc de 3 jours avant.
Donc demain. Allez voir le film en avant-première ou allez le découvrir mercredi au cinéma. Quoi qu'il en soit, allez au cinéma voir les Tuches 4 parce que vraiment ça fait tellement de bien, ils nous ont manqué, on est content de les retrouver.
Et je dirais même en général, allez au cinéma.
Oui, bien sûr. Ça, vous avez totalement raison. Je vais vous laisser choisir la chanson qu'on va écouter maintenant. Peut-être une chanson des Doors. Parce que les Blues Brothers, on l'a souvent écouté.
Mais vous avez
dans
tous les Doors à disposition, là, où je peux choisir au hasard. Light My Fire.
Ah bah parfait.
Parfait, ça
magnifique.
Donne la patate en plus.
Et puis nous, on se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de Clap en compagnie de Mes Critiques. On vous parlera des films à voir ce week-end au cinéma. Merci beaucoup, Olivier Barou.
Merci, Laurie, merci. I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. Our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Through
No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire.
Life on Fire sur la bande originale du film Les Doors, bande originale préférée de notre invité Olivier Barou, réalisateur d'Etouche 4 qui était avec nous il y a quelques instants.
14h, 15h, clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Vous êtes bien à l'écoute de Clap sur Europe 1, c'est notre dernière partie et cette semaine au cinéma, c'est plutôt varié. Drame, comédie, biopic, suite, mais aussi le nouveau film d'un fameux réalisateur espagnol qu'on connaît tous par cœur ici. On va tout vous dire sur les films à découvrir ce week-end au cinéma. Et justement, pour m'épauler dans cet exercice que j'aime tant, Franck Vallière et Victor Bonnefoy, bonjour à tous les deux.
Ravi d'être sur votre épaule.
Ben oui, je tiens l'autre épaule de mon côté, tout se passe très bien.
Ouh là là, je me sens très en sécurité alors. Mais avant de démarrer et de parler des sorties de la semaine, les garçons, j'ai la question habituelle. Est-ce que vous savez qui domine le box-office ?
Mince, je le savais, je l'ai oublié. Quelle était la grosse sortie de la semaine dernière ?
Ça veut dire que les Baudins ne sont pas doublés d'exploits ?
Alors, je pense pas. Je pense qu'il y a quand même de la nouveauté.
Alors, le nouveau leader cette semaine, c'est le Disney.
Mais oui, Encanto qui est partout. Évidemment, les parents emmènent les enfants, ça fait double entrée.
Mais bien sûr, il s'est emparé donc de la première place avec 526 000 entrées en une semaine. En deuxième position,
Les Baudins.
Les Baudins, avec 330 000 entrées supplémentaires, donc déjà près de 910 000 entrées en deux semaines, bientôt le million.
c'est un truc de fou.
C'est un truc de fou, hein. C'est vraiment le phénomène. Et puis sur la troisième marche du podium, une nouveauté qui était très attendue.
House of Gucci.
Eh oui, avec, il n'est pas si mauvais, hein, ce Victor Bonnefoy.
Avec, dans cette phrase, contrairement au film, voilà.
Avec, c'est vous qui le dites, Lady Gaga, près de 293 000 tickets vendus en une semaine d'exploitation. C'est pas mal.
Bravo.
Alors, concernant les films à voir cette semaine, on parlait la semaine dernière en compagnie d'Yvan Attal, des Choses humaines, un film qui raconte toute l'ambiguïté d'un procès pour viol. On écoute tout de suite ce que vous en avez pensé.
J'ai beaucoup aimé le film, il est très bien traité. L'interprétation, alors là, Ben, génial. Et quant à la fin, ça nous laisse tous dans le doute.
J'ai adoré, franchement, c'est un super film et les plaidoiries à la fin sont exceptionnelles. C'est surprenant, on est partagé pendant tout le film.
Ah, c'est extrêmement intéressant et ça montre la complexité de toutes ces questions. C'est vrai qu'on sort de là en se disant qu'il y a des cas où on n'aimerait pas être juré, parce que c'est très difficile.
Une autre sortie française, c'est la pièce rapportée d'Anthony Peret-Jadko, une comédie originale sur la bourgeoisie avec Anaïs de Moustier, une jeune guichetière qui rencontre un vieux garçon joué par Philippe Catherine, qui lui propose au bout peut-être quoi d'une demi-journée de l'épouser. Seulement voilà, cette relation ne plaît pas du tout à Josiane Balasco qui joue la terrible mère. Comment elle s'appelle dans le film, Victor Bonnefoy ?
Alors je ne sais plus comment elle s'appelle, par contre je sais qu'elle répète en permanence qu'Anaïs de Moustier c'est la petite pute.
Est-ce que le running gag, c'est
la reine-mère, exactement.
C'est la reine-mère.
Choc.
Comment je fais pour prendre l'avion ? Je vais à Antibes.
Ah, vous n'avez pas pris souvent le métro dans votre vie, vous ?
Oui, c'est la première fois.
Vous virez votre mère ?
Maman a souvent besoin d'aide, elle est en chaise roulante.
Au fait, je m'appelle Ava.
Et je m'appelle Paul. Je voudrais me marier avec vous.
Ah, bonne idée.
Quelqu'un en Rolls se marie avec quelqu'un du métro. À ton avis, qui y gagne ?
Bah, tout le monde ! Puisque le propriétaire de la Rolls obtient enfin ce qu'il n'a jamais pu acheter : l'amour !
Et c'est Adélaïde Château-Tétard, voilà le nom du personnage de Josiane Balasco. Alors,
mais on l'appelle la reine-mère dans le film.
On l'appelle la reine-mère, évidemment.
La dynastie des Château-Tétard.
Alors Victor ?
Alors j'ai été extrêmement surpris. Malheureusement, on m'avait beaucoup parlé de La Loi de la Jungle à plein d'instants que je n'avais pas pu voir comme La Fille du 14 juillet, son précédent long métrage. Donc je découvre l'univers du réalisateur Antonin Peret-Jadko avec justement la pièce rapportée. Et quel petit bonheur, quelle comédie douce, quelle comédie tendre, quelle comédie méchante aussi par plein d'aspects. Parce qu'elle permet de s'attaquer à la très vieille bourgeoisie française un peu rance et venir taper dessus avec des scènes hilarantes où on les voit dans toute leur pauvreté d'esprit se rigoler et boire du champagne quand l'ISF est finalement supprimé. Tout ça en plus avec la rayonnante Anaïs de Moustier au milieu qui est absolument brillante, avec William Legbill, avec Philippe Catherine, avec Josiane Balasco qui a une partition qui est merveilleuse à suivre. Non, c'est un vrai moment de bonheur au cinéma, la pièce rapportée, c'est un vrai moment de moquerie sur une vieille France rance dont on aime bien rire par instant. En tout cas, moi, ça me fait du bien.
Mais ce n'est pas le meilleur du réalisateur. La Loi de la Jungle ou La Fille du 14 juillet était tellement plus barrée encore. Ce qui est véritablement intéressant, c'est qu'il rejoint la comédie populaire avec des acteurs populaires, comme Balasco est là, généralement, on est sûr d'avoir un beau succès. Et ce qui est amusant, je trouve, c'est de voir à quel point le chant contre chant, une vanne, un ventre mou, puis des vannes qui reviennent, le moule de la comédie française, explose en éclat au profit de quelque chose de véritablement libre. On se fout ouvertement de candidats black qui arrivent pour postuler pour un job. C'est un truc qui est infaisable aujourd'hui. On pense trop à la morale et à tout ce qui s'est passé récemment.
Non, parce que là, la manière de le faire, c'est justement de critiquer le système et le racisme d'un système. Donc c'est
évidemment, mais qui le risquerait? Et c'est en ça que ce film est brillant, c'est-à-dire qu'il se rapproche de la comédie populaire, mais pas dans sa construction, dans son aspect un peu cynique. Voilà, ça c'est très intéressant.
Ah ben, on écoute vos avis.
J'ai adoré, tout est mordant, juste. Moi j'adore ce réalisateur, donc c'est super, les comédiens sont géniaux. Et puis c'est une critique aussi des bombes typiques sur la noblesse, et enfin bon, c'est génial quoi.
Philippe Catherine et Anaïs, je les adore et je les ai trouvés superbes. Je trouve que c'est une belle histoire, c'est vraiment drôle à certains moments, mais un peu mitigé.
C'est un réalisateur qui a ses particularités, mais si on aime ce qu'il faisait avant, on va aimer ce qu'il fait maintenant. C'est un très bon film.
Et puis on passe à un autre film très attendu, c'est une suite, c'est SOS Fantôme, L'Héritage. Il porte bien son nom puisque c'est un véritable retour aux sources, un hommage nostalgique de Jason Reitman à son père, Ivan Reitman, qui avait réalisé le premier film en 1984. Dans ce dernier opus, on fait place aux jeunes. Ce sont les petits-enfants d'un chasseur de fantômes qui vont devoir se battre contre l'ancienne menace.
On n'en a pas signalé depuis 30 ans des fantômes.
J'y crois pas. Il se passe quoi ici exactement?
Notre grand-père était un chasseur de fantômes.
Je crois qu'on a ouvert les portes de l'enfer.
Hey, on vous a manqué?
Who are you gonna call?
Ghostbusters.
Oui. Bon, on l'a tous fait, mais en décalé.
On va réussir à se synchroniser pour la semaine prochaine.
Alors, Victor, conquis?
Alors, plutôt conquis, en effet. Après, en fait, un pseudo-remake suite avec un swap de genre qui avait été fait en 2016, où les garçons avaient été remplacés par les filles et les filles remplacées par des garçons, et qui s'avérait juste être un très mauvais film, au-delà d'être une très mauvaise idée.
Tu veux dire celui dans lequel les femmes jouaient les rôles principaux?
Ouais, le film était extrêmement mal écrit et vraiment raté, et je me disais, qu'est-ce qu'ils vont nous faire encore avec la licence Ghostbusters, une licence à laquelle je suis très attaché de par mon enfance et de par le fait que je regardais le premier en boucle. Quel bonheur, j'allais dire des insultes, mais quel bonheur incroyable, vraiment, de voir justement Jason Reitman prendre cet héritage-là, et pas juste parler d'héritage, mais aussi d'héritage de ce que sont devenues les générations de fans de Ghostbusters. Justement, tout l'hommage aussi qui est fait dans le film à Harold Ramis, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques années, et qui va comme un fantôme planer au-dessus de cette histoire. Et qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui? Qu'est-ce que ses créations ont laissé derrière lui? Le film est touchant, le film est beau, le film est assez malin par plein d'aspects. Alors, on lui reprochera que des fois ça joue un peu comme un cul, et puis que par instant l'histoire peine un peu à avancer. C'est vraiment, je t'installe des jouets devant toi et tiens, allez, tu les as bien vus, t'es content, il y a plein de références, un peu trop fanservice par moment, mais on en reprendrait bien pour une heure de plus.
Voilà pour SOS Fantôme. Alors, le retour au cinéma du réalisateur espagnol le plus connu du monde, c'est Pedro Almodovar avec son film Madres Paralelas. Il était d'ailleurs à Paris pour l'avant-première. Tu y étais, Victor?
Parfaitement. Oui.
Tu vas nous dire dans quelques instants ce que tu as pensé du film.
Oh là là.
On écoute.
J'aimerais vraiment avoir un enfant avec toi, Janice. Crois-moi. Mais je ne sais pas si je peux me le permettre en ce moment.
Il ne s'agit pas de savoir si on peut se le permettre ou non. L'enfant est déjà là.
N'aie pas peur. Tout va bien se passer.
Je suis pas seule, j'ai ma mère.
Bonjour, trésor.
Elle est de plus en plus typée, on dirait.
Je crois pas que ce soit ma fille, Janice.
Et moi, t'as pensé à moi?
Tout le temps, j'ai pensé à toi.
Nouveau film donc de Pedro Almodovar, un drame dans lequel il dresse le portrait de mère qui se rencontre à la maternité, tout ça mêlé au devoir de mémoire de guerre d'Espagne. Victor Bonnefoy, tu en as pensé quoi?
Vous avez vu La vie est un long fleuve tranquille? C'est bien plus drôle. Vous avez vu Tel père, tel fils de Kore-eda? C'est bien mieux réalisé. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois, c'est la même histoire, ce trope qu'on a vu plein de fois au cinéma de « Oh mon Dieu, à la maternité, deux enfants ont été échangés, que va-t-il se passer ?» Le fait est que Pedro Almodovar arrive à rendre ça plutôt ennuyeux, plutôt raté, plutôt blindé de références qu'on a vues ailleurs. C'est-à-dire qu'à un moment, je regarde le film et je me dis « Oh là là, cette scène de sexe lesbien avec du Janis Joplin, c'est vraiment très très beau. Mince, Gaspard Noé l'a fait il y a 6 ans. ans avec Maggot Brain en fond.
Enfin, on ne peut pas réinventer le fil à couper l'eau chaude tout le temps. Quand on s'appelle Pedro Almodovar, on sait faire du cinéma.
Ah ben, effectivement, et on veut raconter une histoire de famille qui va se briser, de relations conflictuelles, tout ça en plus mêlé à un contexte de guerre d'Espagne qui est traité absolument 3 minutes dans le film, et on espère nous faire pleurer avec un plan final en disant « La guerre d'Espagne, c'était très dur ». Oui, mais ton film n'en parle pas, Pedro. Donc c'est un petit peu compliqué
mais
de...
Il est remonté.
C'est un peu compliqué de s'investir émotionnellement dans le film quand on a vu cette histoire 100 fois. Il y a vraiment un gros, gros, gros problème de subtilité dans ce film. C'est une vraie déception que ce Madres Paralelas, et j'en suis le premier attristé.
Mais Penélope Cruz est fabuleuse et elle a remporté le prix d'interprétation à la dernière Mostra de Venise.
Oui, tout à fait. Peut-être, oui. Elle s'est pleurée à l'écran, quoi.
Allez, on écoute votre avis.
C'est superbe, j'ai vraiment adoré. Puis déjà, je suis fan de Penélope Cruz, mais c'est très émouvant.
Je trouve qu'Almodovar, il touche vraiment dans le mille dès qu'il s'agit de parler des femmes, quoi. Il les magnifie davantage et bon, c'est vrai que Penélope Cruz joue vraiment, vraiment, vraiment bien.
Un très, très beau film. Je ne m'attendais pas du tout à ça. L'histoire est très belle.
Et comme je dis souvent dans cette émission...
C'est le public qui a toujours raison.
Exactement.
Je vais aller le rencontrer, ce public. On va aller discuter.
Merci beaucoup. Franck Vallière, un coup de cœur dont tu voulais absolument nous parler.
Oui, c'est le morceau de bravoure de cinéma de la semaine. Le 8e film de Mohammad Rasoulov, réalisateur iranien, qui avait pris déjà quelques mois de prison pour avoir réalisé un précédent film. Là, il risque 2 ans, en fait, pour avoir réalisé ce film qui est devenu l'Ours d'or à Berlin, qui s'appelle Le diable n'existe pas. C'est un film qui parle de la peine de mort et de comment, en Iran, aujourd'hui, on peut se conduire face à la peine de mort. Je n'en dirai pas plus pour le pitch. Ça, c'est juste que pour l'anecdote, par exemple, comme le gars est poursuivi et qu'il risque 2 ans de tôle, j'ai passé 30 minutes lors d'un Skype avec lui, il m'a expliqué comment il avait fait son affaire. En l'occurrence, comme la censure en Iran essaye de limiter la casse sur les films, il a prétendu faire des courts-métrages, 4, et en fait, il les a réunis dans un film. Donc on a 4 histoires différentes autour de la peine de mort en Iran. C'est absolument brillant. Cinématographiquement, c'est très abouti, c'est sublime, c'est splendide.
Et ça s'appelle Le diable n'existe pas. Et puis évidemment, la sortie cette semaine incontournable, c'est La méthode Williams, ce film sur le combat de Richard Williams qui avait un projet, c'était de faire 2 enfants, 2 filles qui deviendraient 2 stars du tennis. Et il a plutôt très bien réussi avec, dans le rôle de Richard Williams, Will Smith.
J'ai écrit un plan de 78 pages décrivant leur entraînement avant qu'elles viennent au monde. Regardez-les faire quelques balles.
D'accord. Vous vous appelez comment déjà ?
Moi, c'est Vénus.
Et moi, Serena.
Tu vas entrer sur le court la tête haute. Tu es une championne. Et le monde entier le sait. Vénus et Serena vont changer le monde.
Il y avait vraiment une grosse attente du public autour de ce film. On écoute tout de suite vos avis.
Je ne connaissais pas vraiment l'histoire de Richard Williams. Même sans connaître vraiment le personnage, j'ai beaucoup aimé son interprétation. Donc j'espère que le film va avoir un grand succès parce que c'est un très très bon film.
C'était un bon film. Après, je fais du tennis aussi, donc je pense que c'est pour ça aussi que je voulais le voir. C'est convaincant.
C'est un film incroyable. J'ai vraiment beaucoup aimé.
Et c'est déjà la fin de ce clap. Merci à tous les deux, Victor Bonnefoy et Franck Vallière. La semaine prochaine, les Tuches 4 débarquent au cinéma. Olivier Barou, cool. Le réalisateur du film, était mon invité aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous bien sûr samedi prochain. Passez un bon week-end et surtout, continuez d'aller au cinéma.
Europe 1.
Clap. Laurie Choléva.